présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Téléphone sonne. Il hésite avant de répondre. Allô? Oui. Bonjour, c'est moi, Nadine. Il y en a les sueurs froides. Je m'excuse pour la dernière fois. J'ai dû vous quitter précipitamment. Pour vous faire pardonner, je vous invite ce soir. Vous voulez ? Il hésite et lui dit « Où ?» Elle lui répond. « Je connais un restaurant très bien, pas trop cher, le Blandan, dans le premier, en bas des pentes de la Croix-Rousse, pas bien loin de la mairie du premier. Cela vous va ? Oui, à quelle heure ? Disons 20h30, devant le restaurant. Bien, j'y serai. Au revoir. Alors, à ce soir, oui. Il y va. C'est pour vraiment savoir qui elle est. Devant le restaurant. Elle arrive, est habillée d'une robe blanche.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, merci, elle lui dit. Alors rentrons. Ils s'assoivent à une table et commandent leur repas. Il la regarde bien et voit qu'elle a quelque chose de spécial dans son physique. Il lui dit, j'ai eu peur la dernière fois, je vous ai cherché de partout. Je suis vraiment navré, mais j'avais un rendez-vous très urgent. Il lui dit, je suis allé au village, me renseigner, et l'on m'a dit que la maison était abandonnée depuis longtemps. Elle lui dit, oui, mais je suis revenu après un long voyage. Il lui dit, je ne comprends rien à votre histoire. La mort de votre famille, c'est un crime? Elle se pince les lèvres et lui dit « C'est ce qu'ont pensé les gens, mais en réalité c'est tout autre chose. Parlons d'autre chose si vous voulez. » Elle boit un verre de vin et lui dit « Je vais me laver les mains. » Elle se lève et va aux toilettes. Plus tard, elle revient et lui dit « Il faut que je fasse une course. Vous venez avec moi ?» Ils se lèvent et sortent du restaurant. Il lui demande « Nous allons au-dessus de la rue des Capucins ?» Ils y vont, à pied. Elle le mène vers le passage où il y a le jardin. Elle lui dit, avec un sourire étrange, les blancs des yeux très lumineux, la peau très blanche. Venez. Elle entre dans le passage. Il hésite, mais au lieu de la suivre, il se sauve en courant. Quelque chose lui a dit qu'il était en danger. Il court jusqu'à sa voiture et entre dedans. Il lui raconte tout et lui dit, à son regard, j'ai tout de suite compris qu'elle n'était pas de notre monde et qu'elle me voulait du mal. Deux jours plus tard, à 23h, une femme habillée d'une robe blanche marche dans une rue déserte. Elle va vers un homme, grand, mince, cheveux gris, costume gris. Elle lui dit, bonjour monsieur, pouvez-vous m'aider? J'ai des difficultés à ouvrir la porte de mon appartement. J'ai eu un instant de faiblesse et je... L'homme lui dit,
oui, bien sûr, madame. Allons-y.
Merci, monsieur.
Où est-ce?
Je vais vous conduire.
Vous êtes sûr d'avoir vos bonnes clés, au moins?
Oui. Oui, monsieur. Jardin, l'homme hésite à la suivre. Elle se retourne, il la suit, elle le mène jusqu'au jardin. Il lui demande,
où est la porte?
Là-bas. Elle veut montrer un coin noir du jardin. Il y va. Elle sort de la cuvette de la fontaine une hache. Et va vers l'homme. Elle sort de la cuvette de la fontaine une hache. Et par derrière, elle lui donne un coup sur le crâne. Oh, et son gicle. L'homme met la main sur sa tête et se tourne, horrifié. Il a donné un coup sur la face. Il sent un giclet sur sa robe, le sol. La tête de l'homme est tout rouge. Son corps vacille. Il tombe à la renverse. La femme laisse encore le corps de l'homme vient s'abaisser et elle relève encore la hache pleine de sang et lui en donne encore un coup à la poitrine. Sa robe baigne de sang, ses cheveux, son visage aussi. Elle est pâle, le blanc de ses yeux sont lumineux. Errant, comme si elle était démente. Elle jette à terre la hache ensanglantée. Elle dit, l'autre, je n'ai pas pu le tuer. Il le fallait. Les sept soleils ont besoin de sang. Elle se baisse. Prend son mouchoir. Et le baigne dans le sang de l'homme. Avec son mouchoir, elle barbouille la statue. Puis, elle touche la pièce du socle.
où elle a gravé les sept soleils. La statue bouge. Elle laisse un passage. Un passage avec des escaliers qui descendent. Elle se baisse, appuie sur l'interrupteur de la lumière et descend les marches. La fontaine se remet en place. Les marches descendent très bas. Et en bas se trouve un long couloir. Avec le toit en ogive. Le sol, c'est de la terre. Et sur le couloir qui est long et humide. Au bout du couloir se trouve une pièce en demi-cercle avec un coffre, une chaise, une table et un lavabo. Elle se déshabille. Se nettoie.
Ouvre un coffre, en sort une robe beige, se la met, puis va ouvrir une porte.
Un homme à contre-jour, habillé d'une cape noire. Il est grand. Elle va voir lui. Elle lui dit, voilà, la chose est faite. Il lui demande, et Philippe? Je n'ai pas pu. Peut-être est-ce une erreur que de chercher à le supprimer. C'est l'ami de l'élu. L'homme lui dit, cela empêche l'élu d'avoir une femme et une descendance. Elle lui dit, mais l'élu a déjà eu des rapports avec une femme. Peut-être. Elle lui demande, maintenant que j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, vous êtes à mon service. Vous avez fait don de votre famille pour ça. Vous avez voulu incarner la déesse, eh bien vous l'êtes. Elle lui demande, pour toujours? Oui, pour toujours. Vous pouvez dormir pendant qu'il est temps. J'ai besoin de vos rêves. Peur qu'il se jure de ne plus jamais chercher à revoir cette femme. Elle a un regard tellement étrange. Pourtant, lorsque je l'ai connue, elle n'était pas comme ça. Et dire que c'est peut-être un fantôme. Se dit à Paris, chez lui, que Guillaume lui aussi est un fantôme, si l'on veut, mais il est réussi. Les jours passent. n'entend plus parler de Nadine. Elle ne rôde plus dans les rues ni dans la demeure. Galien voit toujours Madame de Fleury. Il passe un après-midi par semaine avec elle, à boire du thé chez elle, ou sortir faire les magasins, ou se promener au parc des Tuileries, ou aller au cinéma. Ça fait du bien à la mère d'avoir de la compagnie et avoir une personne avec qui elle puisse parler de son fils. Lui, Galien, aime bien cette femme qui lui rappelle sa mère et puis cela le détend. C'est la seule personne qui soit, qu'il voit, qui n'a aucun rapport avec toutes ces choses bio et ADN. Une personne normale et tranquille qui parle de choses simples. Ça fait du bien et c'est sa récréation. Il se sent aussi une dette envers elle. Il lui a pas dit que son fils était encore en vie. Elle croit toujours qu'il est mort. Et en réalité, il vit chez lui. Mais il ne peut pas lui dire la vérité. Ce serait un choc trop grand pour elle. Et puis c'est trop tard maintenant. Galien va voir Madame de Fleury, se plaint souvent de migraines, de mal de tête.
J'ai une migraine atroce.
Elle a des troubles de la vue.
J'ai vos troubles.
Galien lui dit. Vous devez avoir besoin de lunettes. C'est cela qui vous donne mal à la tête. Mais elle s'ostine. Elle ne veut pas porter de lunettes. Très souvent, ses maux de tête lui donnent des nausées. Dehors, elle titube et souvent elle s'accroche à Galien. Galien se dit que c'est l'âge, qu'elle doit se faire faire absolument des lunettes, mais elle est têtue. Elle a des pertes de mémoire.
Mais nous sommes jeudi. Où ai-je mis mon sac?
Des fois, elle le reçoit dans sa chambre.
Entrez. Bonjour, madame.
Dans le noir, et elle lui dit,
j'ai absolument mal aux yeux, je suis obligée de rester dans le noir.
Vous devriez voir un médecin.
Non, ce n'est rien.
Un après-midi, elle a toutes les peines du monde à servir le thé. Elle a des difficultés à prendre les objets et renverse tout.
Que je suis maladroite.
Ce n'est rien. Que vous arrive-t-il ?
Rien. Des moments, j'y vois double.
Elle se renverse du thé bouillant dans la main, sur la main, sans qu'elle s'en rende compte, sans qu'elle réagisse. Gaïa lui dit, attendez, je vais vous servir, vous vous êtes brûlé.
Mais je n'ai rien senti, non. Je n'ai rien.
Tous ces troubles inquiètent Gaïa, mais ne peut rien faire puisqu'elle refuse de voir le médecin. Et les jours passent comme ça. Va chez elle.
C'est la porte qui est ouverte.
Bonjour.
Entrez, monsieur.
Il entre.
Madame ne va pas tarder.
Je vais attendre. Ils vont aller se faire une petite promenade. Et il la voit descendre les escaliers en robe beige, le sourire aux lèvres.
Bonjour, j'arrive.
Et elle descend les escaliers. Et d'un seul coup, elle tombe jusqu'en bas des marches.
Gaïa court, se penche,
la retourne et ne bouge pas. Madame de Fleury, il appelle la bonne. Mademoiselle, vite!
La bonne court.
Votre maîtresse a eu un accident. Restez près d'elle. Surtout ne la touchez pas. Mettez-lui une couverture. Moi, je vais téléphoner un médecin.
Gaïa va au salon pour téléphoner.
Allô? Ici Gaïa. J'aimerais parler à Monsieur Riquin. C'est très urgent. Oui, Gaïa Diap. Allô? Monsieur Riquin. J'aimerais, c'est que vous puissiez venir avec une ambulance tout de suite chez Madame de Fleury. Oui, la mère de Guillaume. Elle vient de perdre connaissance. Mais toute urgence. Elle est tombée. Oui.
Bon. J'arrive.
Merci. Est arrivée avec en brancard deux infirmières et Riquin. Madame de Fleury n'a pas repris connaissance. Riquin l'ausculte comme ça, en vitesse, et dit
« Il faut absolument vite l'emmener à la clinique. »
Gaïa lui dit « Je vais avec vous. » idée à la bonne. Restez là et surveillez l'appartement. Je vous téléphonerai. Bien, monsieur. Et l'on emmène Madame de Fleury, toujours inanimée. Examine, on le sculpte, lui fait des examens, radiographie, scanner, fond de l'œil. Elle a repris un peu connaissance. Une fois que tout est fait, Galien est dans le bureau de Riquin et lui demande « Alors, qu'a-t-elle ?» Le médecin lui dit « Malheureusement, d'après les premiers examens, et après d'autres plus approfondis, d'après les troubles que vous m'avez dit et ce que nous avons trouvé, je pense qu'elle a une tumeur au cerveau. » Galien est effondré et lui demande « Vous pouvez la soigner ?» Elle est perdue. Elle a pour combien de temps?
Peut-être 6 mois, 1 an. Il faudra l'opérer, lui enlever cette saleté, mais même, elle sera perdue.
Alors pourquoi l'opérer?
Parce qu'il faut croire au miracle et que pendant quelque temps, elle ira mieux. Plus de maux de tête et de troubles de vision.
Et lorsque ça lui reviendra de plus en plus insoutenable, ce sera la fin. Galien lui dit, c'est terrible, ne peut-on pas faire une greffe au cerveau, garder la partie qui est encore bonne?
Le médecin lui dit, non, c'est trop tard. La tumeur a pris une trop grande place et a tué, étouffé la cellule. Le sang ne passe pas comme il faut. C'est comme une pieuvre qui enserre le cerveau. C'est trop tard. Au début, on aurait pu lui injecter des bactéries pour tuer la tumeur et même la faire fondre. Mais là, ce n'est pas possible. Elle est trop grosse. Et importante, elle a presque la taille du cerveau. Et si l'on met des bactéries, elle détruirait le cerveau avec. Elle ne pourrait pas faire autrement.
Galien lui dit, il faut lui cacher son état. Qu'avez-vous lui faire?
Nous allons l'opérer.
Sous quel prétexte?
Elle n'est pas très consciente. Nous lui dirons qu'elle est tombée. Et s'est fracassé la tête, qu'elle est tombée à cause de sa vue, qu'elle doit s'acheter des lunettes.
Galien lui dit, bien, allons la voir et disons-lui qu'elle a besoin, pour la soigner, d'être endormie.
Et ils y vont, sortent du bureau. Pour aller dans la chambre où elle a été mise. Thank you.
est allongée, un peu ensouquée. Galien lui dit qu'elle est tombée et qu'elle s'est fracassée le crâne, qu'on va l'endormir et lui ranger tout ça, que tout ira bien. Elle ne réagit pas. Pour l'opération, lui rase la tête, tension, prise de sang, etc. Le lendemain, c'est l'opération. Va aux nouvelles au bureau de Ruquin.
Entrez.
Ruquin lui dit tout s'est bien passé et se remonte. Galien lui demande « Pour combien de temps ?»«
Dieu seul le sait. »
Chambre de réanimation avec des tuyaux, etc. Galien se demande s'il faut le lui dire. Si je le lui dis, cela risque de lui gâcher les derniers jours de sa vie. Et si je ne lui dis pas, je mens à une malade. Veut-elle savoir la vérité? Déjà, avant son accident, elle ne voulait pas voir un médecin. C'est la preuve qu'elle préfère ne rien savoir. Elle a trop peur. Mais faut-il le dire à son fils? Oui, mais avec ménagement. Et dès qu'elle sera rétablie. Et comment devra-t-elle vivre? Il faut que ce qui lui reste à vivre lui soit le plus doux possible. Allô? Pouvez-vous dire, s'il vous plaît, à Monsieur Riquin de venir me voir de toute urgence dans mon bureau? Merci. Entrez. C'est Riquin.
Bonjour, Monsieur le Président.
Venez, Monsieur Riquin, allez-vous asseoir. Demande à Riquin, aura-t-elle besoin de soins?
Non, pas pour le moment.
Tant que ça ira, il lui dit. Parce que je pense, pour ces derniers jours, qu'elle puisse se passer à la campagne, dans un endroit calme. Riquin lui dit.
Qu'elle soit surveillée 24 heures sur 24, et un médecin doit la voir tous les mois.
Galien lui dit, ce sera vous, bien entendu. Cherche une petite maison en pleine campagne, mais pas trop loin de Paris. On ne sait jamais. Le médecin lui a dit que dès que les troubles reviendront, qu'il faudra l'hospitaliser le plus vite possible pour éviter qu'elle souffre trop. Les jours passent. Connaissant, Galien va la voir.
Lorsque,
c'est normal, vous avez eu une opération, votre chute a déplacé la calotte crânienne. Vous voyez ce que c'est que de jouer à la coquette, ne pas vouloir des lunettes. Mais maintenant, vous êtes guéri. Le médecin m'a dit que l'opération s'était très bien passée, que vous n'aurez plus jamais de ces sacrées migraines ni de troubles de la vue. Mais qu'il va vous falloir du repos, vu que vous avez eu une importante opération. J'ai pensé à un séjour à la campagne. Ça vous ferait du bien. Je vous ai trouvé une petite maison charmante pour votre convalescence. Une infirmière à domicile et le docteur Riquin viendra vous voir une fois par mois. Moi aussi, je viendrai très souvent. Est-ce que cela vous va?
Oui, je vous remercie.
Ce n'est rien, nous sommes amis. Et puis, ce sera mieux que la maison de repos. jours plus tard, elle est portée en ambulance. La maison est une petite maison sur les bords de la Loire, au Pays de Loire. Elle se trouve dans un petit terrain en jardin. Elle n'a pas d'étage et de plein pied à cause de la malade. C'est une maison de pierre. Il l'a acheté. Il a de grandes baies vitrées, un bon chauffage central. Les pièces sont vastes avec de grands couloirs. Il y a une chambre, salle à manger, salon, cuisine, chambre de bonne et les commodités, salle de bain, etc. Galia l'a meublé avec des meubles simples et faciles à employer et à nettoyer. Le lit peut être surélevé et avoir des commodités d'hygiène. Mais ce côté pratique est caché par la boiserie qui fait croire à un lit normal. C'est pour l'esthétique et pour ne pas troubler la malade. Les sanitaires, la baignoire, le lavabo, le bidet ont des rampes. Les WC sont surélevés et ont des rampes. Le lavabo rehaussé et fait en sorte à ce qu'on puisse se laver les mains en étant assis. Madame de Fleury se sent bien, un peu faible. Elle a encore le bandeau à la tête, marche doucement, mais ça peut aller. Elle porte des lunettes pour le soleil. Elle a le moral. Sortie de l'ambulance, Galien va lui montrer la maison. On peut voir la Loire de mes fenêtres. Merci, c'est vraiment merveilleux. Il lui dit, vous allez pouvoir passer une bonne convalescence. Et lui dit, je n'ai plus mal à la tête, mes yeux vont mieux. Et je reviens alerte. Je peux marcher sans perdre l'équilibre. Galien lui dit, c'est merveilleux, mais attention, vous êtes encore convalescente. Alors, coucher tôt, sieste l'après-midi et surtout pas trop se fatiguer. Elle lui dit, sûrement, je me sens bien, docteur. J'ai l'impression d'être complètement guéri et même d'avoir rajeuni. Je n'ai plus cette chose qui me serait et m'empêchait de vivre. J'ai envie de vivre, courir, rire comme à 20 ans. Je me sens aussi alerte que lorsque j'avais 20 ans. Je suis prête à vivre à 100 alors. Merci, c'est grâce à vous. Moi toute seule, je ne me serais jamais fait soigner. Et dire que c'était à cause de ces satanées vues. Elle embrasse Galien sur les joues. Elle lui dit, pour être parfaitement heureuse, il me manque que mon fils. Galien a mal au corps de cette fausse guérison, de cette fausse mort de son fils. Que de mensonges. Et pour arriver à quoi? À la vérité, suprême vérité, la mort. Il a envie de vomir, de voir toute la joie qu'elle a. Il se sent un criminel. Il reste un moment avec elle et la quitte. Au moindre malaise, Erika viendra la chercher en ambulance pour l'aider à mourir. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être moins, beaucoup moins. Cette saloperie qu'elle a dans la tête continue à faire des ravages, et pour le moment, elle est au ralenti. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Se rétablit de jour en jour. Elle se sent bien, fait de la marche et mange de bon appétit. Elle est très heureuse. L'infirmière lui prend sa tension, lui donne des médicaments pour le sang contre la tumeur et lui fait faire une fois par semaine des réflexes. Une fois par mois, Riquin vient la voir. Promenant sur les bords de la Loire, elle dit à Galien « Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je crois que je suis guérie. Vous pouvez faire partir l'infirmière et dire au médecin que j'ai plus besoin de lui. » Galien se sent gêné. Il faut bien lui dire « Pour le moment, vous sentez bien, mais vous êtes encore... en convalescence et le médecin pense que l'opération et les médicaments peuvent vous donner des effets secondaires. Il faut encore que vous soyez surveillé. Vous avez eu une très grave opération, vous savez. » Elle lui dit, « Bien, puisque vous le dites. » Galien se demande s'il doit le lui dire pour qu'elle accepte plus facilement les traitements. Mais cela risquera peut-être de la démoraliser. Elle le saura bien assez tôt.
Un jour, Riquin l'examine dans sa chambre. Elle lui demande « Alors, docteur ?» Il lui dit « Tout semble aller, madame. J'ai plus besoin de soins. » Malheureusement, si, encore, pour quelque temps, il faut que tout se remette en place. Une opération dans le cerveau, c'est quelque chose de délicat et une chose qui ne se ressoude pas comme une appendicite. Bien, je vais vous laisser, madame, j'ai une urgence. Bien, docteur, je vais vous accompagner.
Elle leur accompagne jusqu'à la sortie de la maison. Au revoir, docteur. Au revoir, madame. Puis, elle retourne à la chambre pour faire un peu de rangement. Là, elle trouve sur la chaise la serviette du médecin. Vite, elle va à la fenêtre. Malheureusement, il est déjà parti. Alors, elle prend la serviette pour la ranger dans l'armoire. Mais comme elle n'est pas fermée, les papiers tombent à terre. Alors, elle se baisse pour les ramasser et ranger les papiers. Elle range les papiers et instinctivement, elle tombe sur une pochette blanche, écrite à la main, dessus, Madame de Flory, entre parenthèses, à suivre d'une façon très près. Son corps bat, elle a même un peu de vertige. Mais la pochette dans le porte-document. Le sort. Le remet. Le sort. Elle est toute rouge, essoufflée. Ce dossier lui brûle les mains.
Tant pis. Si je ne le lis pas, cela va me rendre malade. De toute façon, ça parle de moi, de ma santé. J'ai le droit de savoir.
Elle ouvre la pochette. S'assoit à terre. Et lit. Au fur et à mesure qu'elle lit, sa vue se trouble. Elle a la gorge serrée. Elle comprend en gros ce que cela veut dire. Une fois qu'elle a fini de lire, elle souffle un bon coup.
Une fois qu'elle a bu une gorgée,
elle lui demande
ce que je dois faire. Vous vivez seule ? Mais que dois-je faire ? Continuer comme si je ne le savais pas ? Me mettre à hurler à la justice ? Regardez. Demander à voir un autre médecin ou me suicider?
Elle soupire, range la pochette, dans le porte-document,
et va mettre le porte-document dans l'armoire. J'en ai pour 6 mois. C'est déjà pas mal. Elle sort de sa chambre.
présentons dans la série L'écran radiophonique. Un scénario original de Julien Jean-Pierre. La deuxième époque de Violence et Crépuscule. Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.